C'est avec Freud, toujours bien vivant 70 ans après sa mort, que nous allons entamer cette semaine, et avec un biographe étonnant, le psychanalyste Gérard Hubert, dont la biographie, sobrement intitulée « Si c'était Freud », est parue aux éditions du Bord de l'Eau, prétend être une biographie psychanalytique.
I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis, a part of psychology, as a new method of treatment of the neurosis. My name is Sigmund Freud.
I'll never fall again. Said adieu to love. Don't ever call again. For I must have you, or no one. And so I'm through with love. I locked.
Bonjour Gérard Hubert.
Bonjour.
C'est émouvant d'entendre la voix de Sigmund Freud. Hein.
Oui, c'est tout à fait émouvant. Je crois que c'est l'enregistrement à la BBC en juin 1938, quand il arrive à Londres. Première chose, il dit la partie n'est pas gagnée, le combat continue. Le combat continue, c'est une notion que nous aurons sûrement à développer aujourd'hui.
Oui, certainement. Alors c'est assez rare d'entendre la voix de Freud, presque aussi rare d'ailleurs que d'entendre Woody Allen lui-même chanter. La voix de Woody Allen qui nous accompagne pour commencer cette émission avec vous. Mais on va partir de cette biographie, Gérard Hubert, une biographie étonnante, singulière, dont l'ambition, je dois dire, ne manque pas d'audace. Si c'était Freud, vous en faites une biographie psychanalytique. Alors, à quoi s'attache une biographie psychanalytique? Est-ce aux faits? Est-ce à leur interprétation? Est-ce une façon pour vous d'être fidèle à Freud que de raconter sa vie en appliquant, en un sens, les préceptes d'un genre, alors pour lui autobiographique, dont il est le fondateur? En tout état de cause, qu'est-ce qui distingue une biographie psychanalytique d'une biographie stricto sensu, Gérard Hubert?
Oui. Alors au départ, il y a le sujet, c'est-à-dire Freud, qui est lui-même un auto-analysant permanent, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de son auto-analyse la matière même de son œuvre, et selon une interaction entre la subjectivité et l'objectivité dont nous aurons peut-être à parler. Alors, à partir de là, la biographie, le genre classique de la biographie, me semble ne pas pouvoir suffire. C'est-à-dire qu'elle peut être chronologique, elle peut être thématique, et à un certain moment inscrire effectivement une interaction entre la chronologie et les thèmes, entre la vie et l'œuvre. Mais il y a un moment où la matière elle-même porte sur le matériau infantile, la façon dont les souvenirs d'enfance et de la petite enfance sont racontés. Vous savez que Stendhal s'était un peu livré à cela.
Dans la vie d'Henri Brulard.
Exactement, et on voit
Freud lui-même s'y réfère d'ailleurs. Hein.
Oui, mais alors l'intérêt de la démarche que j'ai essayé d'amorcer là, c'est de ne pas s'en tenir simplement aux souvenirs d'enfance, mais bien d'essayer de réintroduire l'analyse même que Freud en fait, et aussi l'analyse de l'analyse que Freud en fait. C'est-à-dire qu'il y a toute une approche de l'inanalysé chez Freud, qui est une dimension tout à fait importante que Jacques Derrida avait lui-même posée à un certain moment. Derrida qui avait beaucoup tenté d'éclairer cet aspect de la pensée de Freud de manière à ce qu'on ne tombe pas dans une trivialité sans grand intérêt. Et à partir de ce moment-là, dès qu'on est aux prises avec cela, et dès que d'ailleurs ça renvoie, pour répondre à votre question, à quelque chose qui est de l'ordre de son propre parcours auto-analytique, sur lequel on peut dire deux, trois mots, eh bien, il est certain que le cadre de la biographie traditionnelle ne suffit plus. Ceci dit, je me range derrière les autorités de la biographie traditionnelle, je ne suis pas un biographe traditionnel de métier.
Que ce soit Ernest Jones, Peter Gay, il y a beaucoup de biographies
exactement.
De Freud qui sont remarquables, qui s'attachent d'ailleurs davantage aux faits, qui ont une vraie utilité, une vraie vertu.
Exactement.
C'est-à-dire que vous ne prétendez pas ici les remplacer, c'est autre chose, c'est un autre éclairage.
Je les affirme comme incontournables. Jones a essayé de donner à la fois des faits et des récits et aussi des reconstructions historiques. Bon, il a fait un travail tout à fait remarquable et je pense qu'on ne peut pas lire Freud et s'intéresser en profondeur à son œuvre sans passer par Jones, encore aujourd'hui. Et même s'il a été décrié pour telle ou telle chose, en fait, moi j'ai travaillé sur cette biographie. Et je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'il avait eues et des choses dont il ne pouvait pas parler et des choses dont il n'était pas au courant.
Finalement, l'évocation de Freud par Jones rappelle l'évocation de Nietzsche par Lou. C'est-à-dire, c'est une évocation presque intime, en somme, et qui, de ce point de vue, a ses vertus.
Oui, oui, tout à fait. Et avec ses limites aussi, d'ailleurs, comme probablement des limites à mon propre travail aujourd'hui. Mais si on le situe aussi par rapport à Peter Gay, là, on peut se dire que là, on a aussi une œuvre incontournable. On ne peut pas, là aussi, approcher l'œuvre de Freud sans passer par Peter Gay. Ceci dit, c'est une vision culturelle de la psychanalyse, beaucoup plus qu'une vision de démarche analytique qui réintroduirait l'expérience de la psychanalyse au cœur même du travail biographique. Alors, c'est vrai que, d'une certaine manière, je n'ai rien inauguré. Freud lui-même, si tant est qu'on puisse se comparer à ce géant de la pensée, Freud lui-même a inauguré cette biographie psychanalytique, par exemple, dans son étude sur le souvenir d'enfance de Léonard Vinci, qui est un texte que je considère comme vraiment un des plus beaux qu'il ait écrit, lui aussi d'ailleurs. Mais on sait aussi que son propre rapport à la biographie était limitatif et qu'il refusait qu'on fasse des biographies sur lui-même parce qu'il savait très bien que ce serait de son vivant absolument insupportable à vivre.
Oui, il disait, je crois, peu m'importe les erreurs à venir des biographes ou je les attends.
Il a été plus loin puisqu'il il a provoqué les difficultés. Il a détruit un nombre considérable de documents déjà à l'époque de sa jeunesse, puis par la suite, tout au cours de son existence, il a détruit des choses de manière à ce que à compliquer, comme il le disait, la vie des biographes. Alors, je dois dire que moi-même, je suis persuadé qu'avec cette biographie, je complique un peu la vie des psychanalystes qui ont une certaine idée de Freud, et des psychanalystes, des philosophes, des hommes de culture, qui jusqu'à présent ont une certaine idée de Freud. Je crois que, malgré tout, il faut, si j'ose dire, on emploie souvent ce terme ailleurs, décomplexer la situation. Il y a des choses qui ne sont pas dites, ça suffit. Il suffit de ne pas les dire. Ce ne sont pas des atteintes à Freud, en aucune manière. Et là, je vous rejoins par rapport à ce respect qu'on doit avoir vis-à-vis de ce penseur qui a fait tout au long de sa vie œuvre d'honnêteté, de sincérité, même si il a beaucoup dissimulé. Mais dire qu'il a menti, comme ça a été dit dans le livre noir de la psychanalyse, c'est une espèce d'interprétation au ras des pâquerettes qui est pas digne, si vous voulez.
C'est comme reprocher finalement un analysant de mentir à son analyste sans voir que dans le mensonge lui-même, il y a une part de vérité dont il faut tenir compte.
Et tous les écrivains avancent masqués. Georges Perec le dit, Jean-Jacques Rousseau ne le dit pas vraiment, mais en même temps, il laisse entendre, etc. Donc, dire que... Alors, précisément, une des grandes tragédies de Freud, ça a été d'essayer d'aller plus loin dans cette livraison de soi-même, si je puis dire, de cette écriture de soi, en livrant beaucoup plus que ce qu'il n'a livré dans l'interprétation du rêve, notamment. Et il a rencontré là un obstacle majeur, qui était la censure que lui a imposé son ami Fliss, qui fait qu'il a réécrit, en quelque sorte, l'interprétation du rêve. Il y a un premier livre, Interprétation du rêve, qui est en quelque sorte un palimpseste que l'on ne redécouvrira jamais. Et sur la base de ce palimpseste, il y a précisément l'interprétation du rêve.
On va revenir sur la question de l'interprétation du rêve, puisque la rédaction, les conditions de rédaction de l'interprétation du rêve sont pour Freud également les conditions d'émergence de ce qu'il a appelé son auto-analyse, qui est véritablement l'acte de naissance de la psychanalyse. Acte de naissance qui coïncide chez Freud avec la mort de son père en 1896. Mais avant cela, on a cité Jones et Peter Gay. Pour l'auditeur, la biographie de Jones, elle est disponible, je crois, aux presses universitaires de France, dans la collection Cadriche.
Oui.
Quant à Peter Gay, il est disponible en poche. Aujourd'hui, et vraiment, il faut les inviter également pour avoir une approche, j'allais dire, exhaustive autant que possible du phénomène freudien.
Oui.
Il faut les inviter également à se plonger dans ses ouvrages. Avant cela, finalement, quand on fait une biographie psychanalytique de Freud, on ne s'attache pas seulement aux faits, donc il y aurait un récit factuel de l'existence de Freud, et puis peut-être un récit contrefactuel, comme une contre-allée, en fond, qui serait le récit des nappes souterraines d'un Freud souterrain, c'est-à-dire d'un Freud véritable, de l'inconscient de Freud, sur lequel nous avons beaucoup d'informations, ne serait-ce que dans l'interprétation des rêves, où Freud raconte, où la plupart des rêves qui sont racontés sont des rêves de Freud lui-même. Est-ce qu'en somme, cette métaphore, j'allais dire des deux routes, une route qu'emprunterait tout le monde et puis une contre-allée, vous semble convenir pour qualifier votre démarche?
Je dois dire que le premier titre auquel j'avais pensé, c'était Freud en vérité. Donc pour rejoindre tout à fait ce que vous êtes en train de dire. Et puis je me suis rendu compte que c'était totalement illusoire et que c'était même de ma part quelque chose qui...
Mensonger.
Oui, enfin qui ne pouvait pas se justifier plutôt. Donc j'ai abandonné ce titre et puis je suis arrivé à si c'était Freud, qu'on peut entendre de différentes manières. Et si Freud ne m'était compté, bien sûr.
Finalement, Freud comme un portrait chinois.
Oui, mais aussi avec une démarche qui, finalement, à la fin, va dire si, point d'exclamation, c'était bien Freud, c'était Freud. Mais tout au long du livre, il va y avoir cette question, eh bien, si c'était bien le bon... Freud était bien ce que j'étais en train de décrire, quelles conséquences il faudrait en tirer pour ceci, pour cela, etc. Mais je crois que vous avez raison, il faut à un certain moment... explorer ces contre-allées, mais il faut surtout aussi se donner des balises, des outils, si je puis dire, pour savoir où on en est à un certain moment, si on n'est pas en train de substituer soi-même une interprétation à une interprétation qu'on pourrait qualifier d'objective, compte tenu à la fois des faits qui sont racontés et des récits qui en sont donnés par Freud, y compris sur le plan de l'inanalysé. Et donc, il y a un travail aussi de vérification très important. Bon, je crois qu'il y a 3000 notes dans mon livre, ou je ne sais plus combien. Et c'est un travail qui consiste à dire, attention, ce que j'essaye de dire, je ne l'invente pas comme ça de mon chapeau. Je remercie énormément d'auteurs, d'ailleurs, je remercie quelques auteurs dans mon ouvrage, et qui sont des auteurs qui ont apporté des éclairages. Je pense, par exemple, à Patricia Coty, Monique Schneider, etc. Et là, je crois que ma démarche consiste effectivement à aller dans ces contre-allées, mais en essayant de tenir compte des mêmes limitations que Freud s'est imposées lui-même quand il a fait, par exemple, cette biographie psychanalytique de Léonard Pinci.
Alors, on va aller aux origines de l'entreprise de biographie psychanalytique. En amont de votre travail, longtemps avant et bien avant Freud, peut-être le premier auteur d'une biographie psychanalytique, c'est Jean-Jacques Rousseau, dont les confessions, alors certains diront, et peut-être d'ailleurs à juste titre, qu'Augustin et Montaigne avaient avant lui inauguré le genre, sauf que dans le texte que vous allez entendre maintenant, on retrouve des émotions qui plus tard trouveront avec Freud justement, sinon leur explication, du moins une interprétation fouillée. L'extrait que vous allez entendre est un extrait fameux des Confessions de Rousseau, donc l'une des versions d'une autobiographie psychanalytique. Écoutez.
Comme Mademoiselle Lambercier avait pour nous l'affection d'une mère, elle en avait aussi l'autorité et la portait quelquefois jusqu'à nous infliger la punition des enfants quand nous l'avions méritée. Assez longtemps, elle s'en tint à la menace. Et cette menace d'un châtiment tout nouveau pour moi me semblait très effrayante. Mais après l'exécution, je la trouvais moins terrible à l'épreuve que l'attente ne l'avait été. Et ce qu'il y a de plus bizarre est que ce châtiment m'affectionna davantage encore à celle qui me l'avait imposé. Il fallait même toute la vérité de cette affection et toute ma douceur naturelle pour m'empêcher de chercher le retour du même traitement en le méritant. Car j'avais trouvé dans la douleur, dans la honte même, un mélange de sensualité qui m'avait laissé plus de désir que de crainte de l'éprouver de rechef par la même main. Il est vrai que, comme il se mêlait sans doute à cela quelque instinct précoce du sexe, le même châtiment reçu de son frère ne m'eût point du tout paru plaisant. Cette récidive, que j'éloignais sans la craindre, arriva sans qu'il y eût de ma faute, c'est-à-dire de ma volonté. Et j'en profitais, je puis dire, en sûreté de conscience. Mais cette seconde fois fut aussi la dernière, car Mademoiselle Lambercier, s'étant sans doute aperçue à quelques signes que ce châtiment n'allait pas à son but, déclara qu'elle y renonçait et qu'il la fatiguait trop. Nous avions jusque-là couché dans sa chambre, et même en hiver, quelquefois dans son lit. Deux jours après, on nous fit coucher dans une autre chambre. J'eus désormais l'honneur, dont je me serais bien passé, d'être traité par elle en grand garçon. Qui croirait que ce châtiment d'enfant reçu à 8 ans par la main d'une fille de 30 a décidé de mes goûts, de mes désirs, de mes passions, de moi pour le reste de ma vie, et cela précisément dans le sens contraire à ce qui devait s'en suivre naturellement. En même temps que mes sens furent allumés, mes désirs prirent si bien le change que, bornés à ce que j'avais éprouvé, ils ne s'avisèrent point de chercher autre chose.
Gérard Hubert, avec ce texte de Jean-Jacques Rousseau et cet épisode de la fessée, hein, et cette jouissance qu'il éprouve en se faisant fesser, et cette jouissance qui ensuite détermine ses désirs pour le reste de sa vie, c'est-à-dire en l'occurrence fait de lui un homme prude et pur de toute souillure, hein, comme il dit, puisqu'il avait tellement de désirs, hein, avec un sang brûlant de sensualité presque dès ma naissance, je me conservais pur de toute souillure jusqu'à l'âge où les tempéraments les plus froids et les plus tardifs se développent. Donc ça, c'est autre chose. Évidemment, on a le Rousseau qui se censure lui-même. Mais c'est étonnant, c'est vraiment la psychanalyse avant la lettre.
C'est une version, vous l'avez dit tout à l'heure, on pourrait dire que c'est une version de la psychanalyse avant la lettre. C'est-à-dire que la différence, peut-être, c'est que Rousseau fixe à un certain moment cette alliance du plaisir et du déplaisir comme étant un facteur de détermination de sa vie et donne pratiquement aucune possibilité de faire retour sur cette alliance, sur cette fixation à un moment donné, ce qui va faire son œuvre. Et tout au long de son œuvre, il va s'expliquer avec ça. Mais chez Freud, il y a quelque chose de plus, si l'on peut dire, en plus c'est, Rousseau est un immense écrivain, mais il y a quelque chose de plus qui est précisément construire une œuvre comme pouvant faire un retour sur cette fixation, notamment sur tout ce qui a à voir, qui va devenir d'ailleurs dans son œuvre même un objet sur lequel il va par rapport auquel il va se battre pour l'imposer aux scientifiques.
Et en somme, penser ce que les autres subissent.
Oui, mais surtout la reconnaissance de l'infantile et de tout ce qui est en rapport avec cet infantile, qui peut être de l'ordre de l'amnésie ou pas. Et il est certain que Rousseau, lui, va là donner le sentiment qu'il a levé cette amnésie. Bon, c'est une amnésie, en fait, qui soit n'a pas eu lieu, soit est facile à lever parce qu'elle est un peu tardive. C'est un refoulement, peut-être, dont il a besoin d'exprimer la levée sous la forme de son œuvre, dans les confessions, notamment. Mais chez Freud, ça va plus loin. Ça va jusqu'à la petite enfance. Et donc, ça va jusqu'à ce qu'on a toujours considéré comme étant l'amnésie infantile et ne pouvant pas être levé comme tel. Alors, vous avez cité Saint-Augustin et Jean-Jacques Rousseau. Là, je
Montaigne aussi, oui.
Citer le texte de Peter Gay là-dessus, qui est tout à fait percutant. Il écrit « Comparé à Freud, les explorateurs du moi, les mémorialistes les moins inhibés de Saint-Augustin à Jean-Jacques Rousseau, quelques pénétrantes que fussent leurs intuitions et franches leurs révélations, apparaissent presque timorées. Les éloges hyperboliques d'Ernest Jones n'ont rien d'outré. Néanmoins, il est certains détails d'importance vitale dans l'auto-analyse de Freud qui demeurent obscurs. » Et donc, il montre bien que Freud, en tant qu'auto-biographe, en tant qu'auto-analysant dans son œuvre, d'une certaine manière, va plus loin que Jean-Jacques Rousseau. Et néanmoins, il nous donne les éléments pour voir pourquoi il va plus loin. Et néanmoins, il y a des choses qui demeurent obscures.
S'il va plus loin, c'est peut-être pour cette raison-là d'ailleurs. S'il va plus loin que Jean-Jacques Rousseau, c'est peut-être aussi parce que Rousseau est prisonnier d'un fantasme de transparence, dont il a d'ailleurs constamment la nostalgie au milieu de ses contemporains. Il se dit « je suis le seul homme transparent ». Les autres se cachent à eux-mêmes et se mentent les uns aux autres. « Moi seul dis la vérité », dit Rousseau en toute modestie. Peut-être Rousseau, prisonnier de ce désir de transparence, n'assume pas la part d'opacité, d'obscurité qu'implique justement l'entreprise de l'auto-analyse. C'est-à-dire, finalement, est-ce que l'auto-analyse, de la même façon que la psychanalyse, naît de ces endroits où les questions demeurent, où il ne suffit pas de proposer un traitement comme un remède à une pathologie, mais de ces endroits où les questions demeurent malgré les solutions ou les réponses qu'on leur propose? Est-ce que le travail de Freud d'auto-analyse, justement, ne débouche pas sur, j'allais dire, non pas davantage d'opacité, mais sur une opacité nouvelle?
Oui.
Contrairement à ce que Rousseau prétend faire dans les Confessions.
Oui, la difficulté de Rousseau, c'est qu'il n'a pas trouvé d'interlocuteur pour véritablement...
Il s'est arrangé pour ne pas en avoir. Hein. Ça aussi, lui permettait de s'en plaindre, hein, mais aussi, ça c'est une autre histoire.
Mais oui, alors, je connais sans doute moins bien que vous la vie de Rousseau, mais y avait-il à l'époque un personnage qui aurait pu véritablement être son interlocuteur? Vous voyez, pour Freud, ça a été un problème permanent. C'est-à-dire rencontrer un interlocuteur qui lui permettrait d'aller justement plus loin dans cette auto-analyse qu'il a commencé en fait très tôt dans sa vie. Ce que l'on ne sait pas trop, si vous voulez, c'est que dès son enfance, il écrivait ses rêves, il les notait, il les interprétait, alors bien sûr à sa manière d'enfant, mais dans un dialogue avec son père aussi, et surtout dans un contexte beaucoup plus encyclopédique, qui était la Bible des frères Philipson, sur lequel on va sans doute parler, parce que c'est quand même un élément...
Parlez-en maintenant, car le temps file hein, quand même. D'accord. Gérard Hubert, dites-nous quelques mots, justement, de ce texte très important. Du cadeau que son père lui a fait pour les 35 ans, pour ses 35 ans.
Alors, la Bible de Philipson, moi je l'appelle le prétexte de la psychanalyse. Pourquoi? Parce que dans cette Bible, qui est en fait le texte hébraïque, traduit en allemand, donc, et avec des commentaires extrêmement sophistiqués des frères Philipson. L'un des deux était un rabbin de Leipzig qui en même temps se battait pour les droits politiques des juifs. Ces commentaires sont extrêmement nourris d'une connaissance encyclopédique universelle. Et alors, la Bible de Philipson, c'est une rupture par rapport à ce que Mendelssohn avait fait, lui-même qui avait déjà traduit la Bible en allemand pour... il avait une certaine appréhension contre le yiddish et donc il voulait absolument que les juifs puissent lire la Bible en allemand aussi. Et donc, Philipson a été plus loin parce qu'avec son frère, ils ont introduit des illustrations de cette Bible. C'est-à-dire que dans le texte même que j'ai chez moi depuis très longtemps parce qu'il a fallu que je travaille sur le texte, dans le texte même, il y a des commentaires qui renvoient à des situations qui sont encyclopédiques, qui sont anthropologiques, qui sont géographiques, etc., et qui sont surtout de l'ordre de la civilisation. Et là, il illustre ces faits par des images perses ou des images surtout égyptiennes. Et le premier qui a travaillé sur la Bible de Philipson de manière officielle, je dirais, c'est Théo Frumer, que j'apprécie beaucoup. Il a écrit un livre remarquable sur ce sujet. Mais je crois que j'ai été plus loin parce que j'ai pu montrer, dans ce livre, je le montre, que Freud, enfant, est saisi à travers un cauchemar d'enfance. Il est saisi par ce texte. Et que l'entrecroisement des civilisations égyptiennes, juives, qui sont présentes dans les commentaires de la Bible de Philipson, eh bien cet entrecroisement va faire en sorte qu'il va voir apparaître dans son cauchemar même des éléments fondamentaux que plus tard il va construire comme étant des outils psychanalytiques essentiels, comme le complexe de castration.
Justement, dans votre livre, Gérard Hubert, vous semblez faire le pari, qui est un pari risqué, hein, qui est un pari qui, alors là, pour le coup, prend le contre-pied de beaucoup d'interprétations de la vie et donc de l'œuvre de Freud, puisque les deux sont mêlés. Vous faites le pari de l'importance du judaïsme de Freud dans son travail. Alors, est-ce à la Bible de Philipson que vous pensez? De façon plus générale, est-ce à son rapport avec son père? En général, les biographes considèrent que Freud a pendant longtemps été une sorte de juif de Sartre, c'est-à-dire qu'il s'est reconnu juif par l'antisémitisme qui pouvait l'entourer, notamment à Vienne, quand il voulait faire une carrière universitaire et que ça traînait des pieds en raison probablement de son ascendance. Quelle place, selon vous, donc, occupe le judaïsme dans la constitution de l'œuvre de Freud et dans son parcours?
Hein. Je souscris à beaucoup de choses que vous avez dites. En fait,
correspondent à ce qu'on dit en général,
oui,
hein, de la place du judaïsme,
oui,
dans l'œuvre de Freud.
Alors, depuis 30 ans, je travaille sur ces questions. Enfin, j'ai publié il y a 30 ans mon premier article sur le sujet. Je crois que Peter Gay a essayé de construire une biographie de Freud où il a essayé de montrer que le judaïsme, au fond, n'avait pas beaucoup d'intérêt pour comprendre les sources de la psychanalyse. Bon. Après, il y a eu des atteintes qui ont été portées en disant oui, finalement, la psychanalyse, il y a eu des sources juives, alors la psychanalyse est une science juive. Bon, ça a été plutôt le courant, on peut dire, le courant jungien, qui a été très très loin d'ailleurs, puisqu'il a même soutenu en quelque sorte la discrimination raciale au niveau de l'inconscient. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'il était nazi. Hein. Il faut bien ne pas tout mélanger.
Il faut quand même être extrêmement précis, naturellement.
Extrêmement
précis. Le procès d'intention arrive immédiatement.
Hein. Exactement. Donc il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de dire que pour lui, il y avait vraiment un inconscient arien, qu'il était d'ailleurs incapable de définir, comme d'ailleurs les nazis n'ont jamais été capables de définir ce que c'était qu'un arien. Et puis, il y avait pour lui l'inconscient juif qu'il considérait être, il appelait ça la pourriture des désirs d'enfants inaccomplis. Donc, vous voyez, tout ce que Freud avait travaillé sur les effets du rapport de l'être humain à la procréation et avec tout ce que ça signifie par rapport à la sexualité, par rapport au rapport aux enfants à venir, etc., etc. Donc, il y a chez Freud, si vous voulez, dire, dans mon travail, à aucun moment, je n'ai cherché à affirmer une thèse. Je crois que c'est très important, parce que moi-même, j'ai été transformé au fur et à mesure de ce travail. Mais ce que je peux dire, c'est que je me suis attaché à faire le point, notamment sur cette question. Et tout au long de son œuvre. Donc je reprends à chaque fois, à chaque étape de sa vie, la question du judaïsme et de Freud. Et il est certain que dès son enfance, il est profondément ancré dans la lecture de la Bible, notamment de la Bible de Philipson, qu'il en fait une discussion très approfondie avec son père, avec ses frères aînés, que ça fait vraiment l'objet de préoccupations importantes, parce que son père et sa mère se situent par rapport au judaïsme libéral si vous voulez, a tendance à vouloir transcender l'opposition entre le chassidisme et l'orthodoxie. Et donc, Freud Freud est dans ce milieu-là. Dire que ce milieu a complètement déserté le judaïsme est une aberration quand on lit justement la dédicace que le père fait à son fils quand Freud a
35 ans.
35 ans, exactement. 35 ans, qui est d'ailleurs pour le chassidisme un âge très très important. Moi, je ne vais pas dans la thèse de David Bacan sur le mysticisme Freud, qui me paraît totalement, qui déforme la réalité des choses. Freud avait une connaissance de beaucoup de choses. Dire qu'il s'inscrit dans cette tradition est totalement aberrant. Mais il est certain que le père de Freud fait cette dédicace dans laquelle il lui dit très clairement que lorsqu'il était enfant, il pensait à lui comme étant un futur prophète, voire plus. Et Freud lui-même a rêvé d'être un Saül, je le montre dans un cauchemar d'enfance, d'être une figure, si vous voulez, la figure d'un roi juif qui serait en même temps d'origine égyptienne, puisque dans ce cauchemar d'enfance, il s'identifie aussi en même temps un pharaon d'origine égyptienne, avec le problème de la mère, qu'est-ce qu'elle devient, la mère dont on tire l'ascendance juive, qu'est-ce qu'elle devient, puisqu'elle est tuée dans son rêve, elle est tuée par deux dieux égyptien à tête d'oiseau. Donc, si vous voulez, il y a dès son enfance, il est dans le judaïsme, mais son problème, c'est de construire une science du judaïsme.
Et par là même de sortir du cauchemar égyptien.
Oui, du cauchemar en tant que tel. Et d'essayer de donner une intelligibilité au judaïsme qui soit une intelligibilité scientifique.
Rappelons d'ailleurs que le cauchemar que vous citez est peut-être le seul cauchemar que Freud raconte, hein, les porteurs à tête d'oiseau. Gérard Hubert, il y aurait une infinité de choses à dire sur le judaïsme ou l'anti-judaïsme de Freud, d'ailleurs, en un sens. Hein, on connaît notamment cette lettre du 26 février 1930, hein, adressée au docteur Chaim Koffler, oui. À Gérard Jérusalem, qui répondait à une demande de signer une pétition condamnant les Arabes pour une émeute survenue en 1929 en Palestine, et Freud refuse de le faire dans un texte tout à fait violent à l'endroit, alors là pour le coup, des siens, si j'ose dire, en expliquant que, parlant du fanatisme infondé de notre peuple et qui, soupçonnant ce fanatisme d'être en partie à blâmer pour avoir éveillé la méfiance arabe. Il y aurait d'autres épisodes à mentionner dans le judaïsme de Freud, mais revenons-en, si vous voulez bien, à son rapport à son père, le rapport qu'il entretient avec son père, et au fait, puisqu'on est passé trop rapidement au début, ce fait qui se trouve d'ailleurs au milieu géométrique de sa vie, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, entre 1896 et 1900, avant que Freud n'écrive l'interprétation des rêves, l'auto-analyse commence avec la mort de son père, avec la tristesse qui accompagne la mort de son père, avec lequel d'ailleurs il entretenait des rapports étranges, puisque le père, en certaines occasions, l'avait traité de bon à rien, je mets le mot en trois termes, évidemment, bon à rien, il y aurait également beaucoup à dire sur la fameuse anecdote du père qui se fait renverser, enfin dont on renverse le chapeau, qui on demande de le ramasser, et le père qui se plie à l'antisémite, qui le traite mal sous les yeux de son fils.
Là, il y a beaucoup de choses là dans ce que vous venez de dire, hein, de ce qui nécessiterait vraiment de ma part beaucoup.
Il nous suffit ici de les évoquer, de renvoyer l'auditeur
par exemple, la lettre à Chaim Koffler est une lettre qu'il ne faut pas interpréter de manière exclusive, parce que c'est vrai que, alors, il faut être très clair,
la lettre existe,
hein. Dénonce le fanatisme religieux du judaïsme, c'est-à-dire ce qui pourrait l'amener à vouloir reconstruire soit un État, soit une histoire sainte, sur la base de la religion, et dont il a dit non seulement que c'était une illusion, comme toutes les religions, mais qu'en plus, elle avait une vérité historique dans le passé, mais que cette vérité historique était remplacée par la vérité de la science, qui, elle, avait une nouvelle vérité historique. Et donc, il pense que c'est sur la base de la science qu'il faut construire le futur État juif. Donc, il ne faut surtout pas croire qu'il est contre, contre l'idée d'un État au sens où ça va être une notion qui va être importée de l'Europe. Et avec tous ses défauts, il refuse d'être nationaliste. En 1915, 14-15, il l'a été. Il est vacciné, c'est terminé. Il se rend compte que les excès nationalistes ne mènent qu'à la cruauté. Donc, il conteste fondamentalement ça. Mais il ne conteste pas le foyer juif. Il ne conteste pas, dans la même lettre, les. Il parle même de ces nouvelles implantations dont il est très fier, etc. C'est-à-dire qu'il a une certaine visée du sionisme qui est positive, mais qui ne peut pas se résoudre à, ni au sionisme politique, ni, et ça je l'explique aussi dans mon livre, ni au sionisme religieux.
Est-ce qu'il se sentait proche du sionisme en un sens, dans la mesure où le sionisme était un mouvement anti-religieux ?
Alors, justement, il y a tout un dialogue avec Herzl, parce qu'à un certain moment, Herzl, après la mort de Herzl, Herzl vient le visiter en rêve. Et pendant ce rêve, Herzl le met en demeure de sauver en quelque sorte le peuple juif, mais à sa manière. Vous voyez, donc effectivement, il est très, il a un judaïsme multipolaire. Dans ce judaïsme, il y a toutes les possibilités d'être juif, mais il ne peut pas y avoir d'excès. Qui soient notamment des excès national-théocratiques, par exemple. Alors, ça, c'est très très important, parce que on a voulu essayer de montrer que Freud était anti-sioniste ou je ne sais quoi. Il faut voir que, par exemple, en 1936, il adhère à une association qui est Kadima, qui est une association de nationalistes juifs. Donc, en même temps, il n'épouse pas véritablement leur objectif.
Adhésion tardive qui lui vient après la rédaction de l'homme Moïse et le monothéisme, c'est-à-dire
après. Alors, l'homme
Moïse
et la religion monothéiste, c'est pratiquement, moi je l'analyse comme étant un guide de lecture du futur État juif. Parce que Freud, en 1917, dit que la seule chose qui lui importe, c'est finalement, qui lui apporte un peu de joie, c'est la déclaration de Balfour. Bien, donc en 1936, quand il voit la guerre venir, ça fait l'objet avec Einstein d'un gros dialogue, eh bien, quand il voit la guerre venir, il pense que peut-être au cours de cette guerre, il va y avoir un nouvel État, parce qu'il pense peut-être que l'Angleterre, les États-Unis, etc. vont gagner. Donc il va y avoir un nouvel État dans la continuation de la déclaration Balfour. Et bien sûr, il est hors de question qu'il imagine la Shoah, si vous voulez. C'est absolument impensable. On ne peut pas anticiper la Shoah. Personne ne peut anticiper la Shoah. Mais il est certain qu'il pense qu'il va peut-être y avoir un État juif. Et à ce moment-là, il écrit l'homme Moïse et la religion monothéiste pour dire pratiquement, écoutez, voilà, l'État qui va être construit, relisez-le à la lumière de ce que j'ai écrit.
Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. Il nous suffit ici de l'évoquer, car nous n'avons pas le temps de nous étendre davantage. En revanche, quand Freud s'en va en 1938, hein, quand il quitte Vienne pour aller à Londres, il fait une étape vers Paris.
Oui.
Et il s'arrête une journée sur la terrasse magnifique de sa meilleure élève, qui était Marie Bonaparte. Et je voudrais qu'on entende ici, puisqu'on a parlé du père de Freud, qu'on entende la voix de sa fille. Oui. L'une de ses filles, peut-être la plus importante, au sens, non pas celle qui est morte après la guerre, Sophie, mais Anna Freud, c'est-à-dire son autre meilleur élève, qui commente ici des films de famille, raconte le départ de Vienne en 1938 et décrit son vieux père sur la terrasse de Marie Bonaparte. Écoutez.
C'est le jour des noces d'or de mes parents. On voit ici toute une ribambelle de visiteurs, des gens de la campagne. Ils apportent des produits de la campagne, des villageoises. On voit tous les cadeaux qui arrivent. Ça, c'est une des sœurs de mon père, une de celles qui est morte en camp de concentration.
Mitzi Freud.
Mitzi.
This is a granddaughter.
Et ça, c'est
Sophie.
La petite fille Sophie.
My eldest brother's daughter.
La fille de mon frère.
My brother Martin on the left, my brother Ernst.
Voilà, Martin
on the right.
À gauche, Ernst à droite.
And by night we left Vienna.
Nous avons quitté Vienne par le train de nuit et avons passé une journée de repos à Paris, sur la terrasse de la maison de la princesse Bonaparte. Voilà son mari, le prince George. Mon frère Ernst qui est venu de pour nous accueillir, et le docteur de mon père, parce que son cœur n'était pas très certain et il avait besoin d'assistance médicale. Il espérait revoir Paris à nouveau, mais il était trop fatigué.
Il est aussi émouvant, Gérard Huber, d'entendre la voix d'Anna Freud que d'entendre la voix de Freud lui-même. Anna Freud occupe une place très importante dans le dispositif freudien, dans la naissance de la psychanalyse. Anna Freud, d'ailleurs, la naissance de la psychanalyse, pour montrer d'ailleurs que la psychanalyse était naissante, Anna Freud a été prise en analyse par son propre père.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un fait.
Pour revenir quand même là-dessus, parce que c'est étonnant, puisque c'est Freud est l'auteur, en un sens, de la plus haute transgression qu'on puisse accomplir, c'est-à-dire d'une forme d'inceste véritablement là, dont il a pu mesurer les conséquences justement en prenant sa fille en analyse.
Oui. Alors, c'est très intéressant d'entendre ce récit, parce que c'est vrai que c'est un récit de protection de son père, alors qu'elle a vraiment été analysée par son père. Et donc, on est là face à une énigme très très grande. Des biographes s'amusent, les uns ont caché l'affaire, les autres ont essayé d'expliquer que c'était, comme vous l'avez dit, une transgression. Pour ce qui concerne Freud, il faut d'abord dire que les règles de la pratique analytique, pour lui-même, il se les est imposées à lui-même, telles qu'il les pensait, et ça fait partie de son élan faustien. Vous remarquerez que dans son œuvre,
qu'est-ce que vous désignez comme élan faustien ?
Son élan faustien, c'est que...
Quoi a-t-il pactisé ?
Alors, il pactise avec tout ce qu'on analyse en situation analytique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les désirs d'inceste, les désirs de mort, etc. Il y a un pacte qui est fait avec ses désirs, mais c'est justement dans la construction du dépassement de ces désirs. Et non pas évidemment dans leur réalisation. C'est-à-dire ce qu'il oppose à Nietzsche, d'une certaine manière, et au surhomme nietzschéen, parce que quand finalement il refuse le surhomme nietzschéen, c'est que pour lui, le surhomme nietzschéen, il a déjà eu lieu dans l'histoire passée. Et c'est le père originaire, en quelque sorte, celui qui avait la possibilité de réaliser tous ses désirs de vie et de mort. Et donc par rapport à ce surhomme, il dit « ça a déjà eu lieu, c'est... » C'est effectivement ce père originaire qui conduit l'histoire, qui nous amène aujourd'hui à chaque fois dans des situations dramatiques, de violence, de destruction, etc. Et ce que lui, il oppose, c'est justement une limite à cela. Chez Nietzsche, il n'y a pas de limite à la cruauté. Chez Freud, il y a une limite à la cruauté, qui est justement la démarche auto-analytique.
Alors, vous citez ça, Gérard Huber, ce serait presque mentir par omission à nos auditeurs que de ne pas faire entendre un texte de Nietzsche, extrait de Zarathoustra. Texte dont, là encore, après celui de Rousseau, en un sens, qu'on peut situer comme, j'allais dire, la préhistoire de la psychanalyse. On va l'entendre car le temps presse et je voudrais quand même avoir votre sentiment là-dessus. Écoutez. Oui.
Moi, dis-tu, et tu es fier de ce mot. Mais il y a quelque chose de plus grand, et tu ne veux pas y croire. C'est ton corps et sa grande raison. Elle ne dit pas moi, mais elle agit en moi. Ce que le sens éprouve, ce que l'esprit reconnaît, cela n'a jamais de fin en soi. Mais le sens et l'esprit aimeraient te convaincre qu'ils sont la fin de toute chose. Ils sont vaniteux à ce point. Le sens et l'esprit sont instruments et jouets. Derrière eux, il y a encore le soi. Le soi cherche aussi avec les yeux des sens. Il est aux aguets avec les oreilles de l'esprit. Toujours le soi est aux aguets. Il cherche, il compare, contraint, conquiert, détruit. Il est seigneur, et il est aussi le seigneur du moi. Derrière tes pensées et tes sentiments, mon frère, il y a un puissant gouverneur, un sage inconnu. Il s'appelle le soi. Il habite ton corps. Il est ton corps. Dans ton corps, il y a plus de raison que dans ta sagesse la plus haute. Et qui donc sait pourquoi ton corps a justement besoin de ta sagesse la plus haute ? Ton soi rit de ton moi et de ses bons prétentieux. Qu'est-ce pour moi que ces bonds et ces vols de la pensée, se dit-il, un détour sur le chemin de mon but ? Je suis les lisières du moi et c'est moi qui lui souffle ces notions.
Gérard Huber, c'est étonnant quand même ce texte de Nietzsche. C'est vraiment ce dialogue entre le soi et le moi. Remplaçons ça par le conscient et l'inconscient ou le conscient et le préconscient et on est en pleine psychanalyse.
Oui, c'est tout à fait ça. Et simplement, là, il faut bien comprendre que, comme Jung d'ailleurs l'avait remarqué, le vrai débat, c'est Freud et Nietzsche. Freud veut fonder un tragique juif, à partir du judaïsme plutôt, une notion du tragique qui ne soit pas celle que Nietzsche propose par rapport à l'idéal allemand de l'époque qui consiste à reprendre en quelque sorte le tragique grec et de le germaniser. Nietzsche propose quelque chose de différent et beaucoup de juifs à l'époque veulent être des Nietzsche juifs. Bon, même un fondateur du sionisme a voulu construire le sionisme sur le nietzschéisme juif. Et Freud, lui, se situe par rapport à ça en disant « Non, ça n'est pas ma voie ». Alors, par où va passer la différence ? Fondamentalement...
Vous avez peu de temps pour nous le dire. Allez-y. Alors,
c'est par rapport au fait que Nietzsche aurait voulu faire de l'expérimentalisme à Vienne et à Paris, il le dit. Il aurait voulu faire 10 ans d'expérimentalisme, il ne les a jamais fait. Donc la description qu'il va donner, c'est une description qui va être peut-être psychologique, peut-être métapsychologique d'une certaine manière, mais qui ne va pas être nourrie par l'expérimentation. Alors que Freud, lui, va faire cette expérimentation, il va faire tout ce cheminement sur lequel on n'a pas le temps de revenir maintenant, et donc il va aller au-delà de Nietzsche par rapport à cette question même du rapport entre le conscient et l'inconscient.
Il y aurait infiniment de choses à dire, Gérard Hubert, sur le dépassement de Nietzsche par Freud, et on arrive pourtant au terme de cette émission, qui n'est que le début d'une réflexion que j'invite les auditeurs à faire sur l'œuvre de Freud, notamment à partir de votre livre. Un grand merci d'être venu nous voir.
Si je t'écris ce soir de Vienne, j'aimerais bien que tu comprennes. J'ai choisi l'absence comme dernière chance. Notre ciel devenait si lourd. Si je t'écris ce soir de Vienne, oh que c'est beau l'automne à Vienne. C'est que sans réfléchir, j'ai préféré partir. Et je suis à Vienne sans toi. Je marche, je rêve dans Vienne. Sur 3 temps de valse lointaine.
Grand merci donc à Gérard Hubert d'être venu nous voir. Je renvoie encore une fois donc à votre livre « Si c'était Freud », paru aux éditions du Bord de l'eau, une biographie psychanalytique. Honnêtement, c'est passionnant.
Je suis seule et puis j'aime être libre. Oh que j'aime cet exil à Vienne sans toi.
C'est passionnant parce que c'est un remède à la tentation de juger Freud en vertu de critères objectifs et intégralement scientifiques, en vertu des catégories, par exemple, de vérité et de mensonge, comme si le mensonge ne contenait pas un peu de vérité, et réciproquement.
De soi. C'est beau à travers les persiennes. Je vois l'église Saint-Étienne. Et quand le soir se pose, c'est bleu, c'est gris, c'est mauve. Et la nuit par-dessus les toits. C'est beau, Vienne.
Un grand merci, un merci tout particulier pour aujourd'hui à Avril Ventura, au travail d'Avril Ventura qui, avec le travail préparatoire à cette émission, Gérard Hubert, nous avait livré à peu près la matière de 7 ou 8 émissions sur Freud à partir de votre livre. Il n'y en a eu qu'une, c'est bien dommage, mais c'est comme ça.
Cela va faire une semaine, ils étaient de passage à Vienne. Ils n'ont rien demandé, mais se sont étonnés de me voir à Vienne sans...